Vous écoutez France Musique.
Merci Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et à la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Bonsoir, bienvenue dans Le Parti d'Enjouer, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir avec ce soir une rencontre inédite avec un jeune pianiste qui vient ici ce soir nous dire qui il est vraiment. Car dans son jeu tout semble à la fois inné et coulé de source, force de l'intellect dans le jeu et jeu de balancier avec ce qui doit rester mystérieux et jamais complètement familier, il a donc pris le parti d'Enjouer ce soir avec nous, mais depuis longtemps avec son piano. Bienvenue à Lorenzo Soules et bienvenue à vous.
Voici donc le microphone, madame. Ne soyez pas effrayée, cet instrument n'est pas plus épouvantable que votre aspirateur. Il happera vos paroles et par le mystère de je ne sais quelle rumination, il vous restituera, quand vous le désirerez, le plus menu de vos propos, avec une telle fidélité que rien ne sera même altéré de votre léger accent bourguignon. Mais après tout, ce microphone, vous le connaissez. Souvenez-vous.
Bonsoir Lorenzo Soules.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors Soules, c'est de quelle origine ?
C'est le nom de mon papa qui vient de Toulouse, mais je ne sais pas exactement d'où vient le nom.
Vous y avez habité à Toulouse ?
Non, pas du tout.
Vous avez habité où ? Avant d'habiter Cologne.
Je suis né à Lyon et j'ai passé mes 5 premières années là-bas, avant de partir pendant 4 ans en Bretagne, à Saint-Malo. Puis ensuite, j'ai encore déménagé pour aller à Paris. J'étais un peu à cheval sur Paris et Saint-Malo, la semaine à Paris et le week-end à Saint-Malo en faisant des allers-retours.
Dès l'âge de quel âge ?
Quand j'ai eu 9 ans. Là, j'ai commencé à faire des allers-retours réguliers toutes les semaines. Mon papa étant à Paris, ma maman en Bretagne. Et ensuite, 4 ans plus tard, j'ai encore déménagé pour aller m'installer à Cologne.
À l'âge de ?
13 ans.
Ça paraît pas un peu tôt, ça ?
Ma maman est venue avec moi au début pour m'accompagner les 3 premières années. Et puis quand j'ai eu 16 ans, je suis resté tout seul là-bas.
Pourquoi vous êtes parti à Cologne ?
Pour pouvoir étudier avec Pierre-Laurent Aymard.
Qu'on entend sous nos voix, là, justement, dans une étude de Ligeti.
Et qui est toujours mon professeur.
Toujours votre professeur, mais cette étude de Ligeti, qu'est-ce qu'elle vous dit dans votre vie ?
Déjà, faire de la musique contemporaine, c'est une grande partie de mon éducation musicale auprès de ce professeur-là. Et à ce sujet, on peut dire que pendant un examen de piano que j'avais eu à Cologne il y a déjà quelques années, en la jouant par cœur, j'avais eu un trou de mémoire et il a fallu trouver la sortie d'une manière ou d'une autre, ce qui finalement s'est passé. Mais en tout cas, ça reste une expérience assez particulière.
Et comment vous décririez ce sentiment de perte absolue de soi, de perte du contrôle ? C'est un sujet qui est très très intéressant, ce qu'on appelle le trou de mémoire dans le temps de l'exécution, parce que le texte musical nous rappelle toujours à cette contrainte absolue qu'il faut le suivre, sans déroger à cette règle. Mais comment on retrouve la sortie et surtout, quel sentiment profondément on ressent ?
C'est toujours un peu embarrassant parce qu'on est écouté par des personnes. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi que c'est humain d'avoir un trou de mémoire. Et dans certaines situations, il faut trouver une solution. Et tout le monde se trompe un jour ou l'autre, donc autant le prendre du bon côté.
Mais ça, quand ça, on se le dit après. Mais quand on est dedans, c'est pas forcément c'est une philosophie qu'on applique en temps réel.
Non, quand on est dedans, il faut se débrouiller pour retrouver le fil. Il se trouve que dans ce cas-là, j'étais revenu 2 pages ou 3 pages en arrière et qu'il m'a fallu prendre certains circuits pour retrouver la sortie.
Alors on va dresser et retrouver le fil de votre vie justement, Lorenzo Soulas, parce qu'il y a plein de choses à dire. Merci d'être avec nous dans ce parti d'en jouer qu'on ouvre avec une de vos grandes émotions musicales, Brahms, par Tchelibidac. Le troisième mouvement de la quatrième symphonie de Johannes Brahms avec l'orchestre symphonique de la radio de Stuttgart et surtout Tchelibidac à la baguette. Alors c'est vrai que pour vous, Lorenzo Soulas, vous êtes pianiste, quel âge avez-vous exactement ?
J'ai 21 ans.
Brahms égale maison. Et c'est intéressant parce qu'il y a des musiques dans lesquelles on se sent un petit peu plus familier. Souvenir d'enfance, j'imagine ?
J'ai découvert Brahms assez tard, donc je ne sais pas si on peut vraiment parler de souvenir d'enfance. Mais depuis que j'ai vraiment appris à connaître un peu sa musique, je me suis toujours senti plus à la maison que dans Brahms qu'avec d'autres compositeurs.
Et comment vous l'expliquez cela ?
C'est toujours un peu dur d'expliquer pourquoi on est plus attiré vers un certain compositeur, parce que c'est souvent aussi un peu d'intuition. Mais c'est une musique qui me parle beaucoup en tout cas.
La musique peut-elle devenir peau de chagrin ? Je vous dis ça parce que je sais que c'est un livre important pour vous, de Balzac, La peau de chagrin. Et si on prend le sens littéral dans l'usage courant, c'est quelque chose qui n'a d'autre fonction que l'usage, quoi, et qui est proche par saint à côté de ce que c'est qu'interpréter la musique. C'est-à-dire, parfois, à force de répéter, est-ce que vous n'avez pas l'impression de désenchanter la musique elle-même ?
Non, parce qu'à chaque fois qu'on refait quelque chose en musique, on y découvre aussi de nouvelles choses. Alors évidemment, quand on joue la même pièce plusieurs fois dans plusieurs concerts, il ne faut jamais essayer de faire la même chose. Il faut toujours essayer de découvrir ce qu'on n'a pas découvert auparavant. Donc ce n'est pas juste un usage, ça, c'est vraiment une découverte perpétuelle.
Est-ce que vous aimez le concert ?
Oui, c'est une sensation très particulière d'être sur scène, de pouvoir partager quelque chose avec des gens. Évidemment, il y a toujours la part de stress, il ne faut pas oublier, mais ça en vaut la peine.
Alors, à côté de Brahms, il y a un autre grand B qui, justement, vous permet de regarder aussi la mort en face et de regarder ses propres petits moments de faiblesse. Un extrait de la cantate BWV 4 de Jean-Sébastien Bach. Le Christ gisait dans les liens de la mort avec John Eliot Gardiner, le Monteverdi Choir, les English Baroque Soloists et avec vous, Lorenzo Soules. Alors c'est vrai que là, on commence par aller, j'imagine, un petit peu en profondeur en vous. On avait ouvert ce parti d'en jouer avec Ligeti, la notion de trou de mémoire, de perte de contrôle. Là, pour vous, cette musique est synonyme de quelque chose qui vous renvoie les reflets de votre propre fragilité.
Oui, alors l'enregistrement avec Gardiner, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai à la maison. J'ai toujours admiré pour ces enregistrements des cantates. Il se trouve qu'une fois, il est passé à Cologne avec cette cantate justement, à la Philharmonie. Et c'était pas vraiment un concert, c'était une soirée divisée en plusieurs parties. Donc il y avait... d'abord un entretien avec lui, devant le public. Ensuite une répétition ouverte au public, avec justement cette cantate. Et ils interprétaient aussi la cantate en entier à la fin. Et déjà, l'enregistrement est très 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 émouvant. Mais alors en live, c'est encore mieux. Et je crois qu'on était plusieurs dans la salle à vraiment vraiment être émus. Et à laisser couler une larme, presque. C'est vraiment le genre de moment où la carapace qui nous entoure un peu explose et nous laisse très vulnérables à ce qui se passe dans la salle.
Est-ce que cette carapace dont vous parlez, Lorenzo Soules, elle vous paraît lourde à votre âge ? Ou assez légère encore ?
On a tous une carapace parce qu'on cherche tous à se protéger un peu du monde extérieur, ce qui peut être légitime dans certains cas. Mais justement, de laisser tomber l'armure, ça peut être très très bénéfique.
Est-ce qu'on peut bien vivre sans carapace, par exemple, quand on est musicien professionnel ?
Non, je pense qu'il faut toujours savoir avoir une protection, mais il faut savoir quand et justement ne pas l'avoir tout le temps en permanence. Et c'est ça justement le problème avec beaucoup de personnes, dont moi aussi d'ailleurs, parce qu'on a toujours tendance à se protéger le plus possible. Et pour la musique, c'est pas forcément bénéfique.
Et pourquoi on a besoin de se protéger, selon vous ?
Parce que en société, dans notre société, on dit que faut se protéger. Et du coup, ça peut être très embêtant quand on pratique un art, parce que justement, l'art ne permet pas, enfin, n'évolue pas si on garde cette carapace.
Thank you.
Merveilleuse interprétation de Lavapièce, extrait des Quatre Cahiers d'Iberia d'Isaac Albéniz par la grande Alicia de la Rocha. Lavapièce, Lorenzo Sules, qui est un quartier populaire de Madrid et qui est la seule pièce dont le titre justement ne s'inspire pas trop de l'Andalousie, mais plutôt d'une idée qui est rythmique qu'on a entendu ici, une sorte de tango andalou. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous étudiez à Cologne dès l'âge de 13 ans avec Pierre-Laurent Aymard. C'est encore le cas actuellement, Lorenzo. Et en même temps, vous, en parallèle, vous suivez les cours d'Alicia de la Rocha. Et c'est vrai que je vous observais en écoutant cette musique attentivement. Et je me disais, mais comment vous l'entendez? Quel regard vous portez justement sur cette œuvre-là? Et qu'est-ce que vous écoutez précisément?
Ce qu'on reconnaît très bien, c'est le jeu d'Alicia de la Rocha. Et c'est toujours un plaisir de l'entendre jouer, tellement clair, tellement pur. C'est vraiment toujours une grande joie de l'entendre.
Et alors, pourquoi êtes-vous allé jouer Iberia à Alicia de la Rocha?
J'ai commencé à aller la voir en 2006, d'une part à cause de la détermination de mon entourage, et aussi avec un peu de chance, parce qu'il y a toujours un peu de chance dans la vie. Et puis on a commencé au départ avec deux, trois pièces d'Iberia. Et puis c'est avéré que dans les 3 ans qui ont suivi, on a travaillé sur l'intégrale. Et ça reste un souvenir fantastique.
Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Qu'est-ce que vous avez appris à faire ou à apprendre à savoir faire?
C'était une dame qui passionnée par la musique et qui a vraiment fait connaître la musique espagnole au monde, qui a d'ailleurs enregistré cette pièce 3 fois au cours de sa vie. Et justement, de pouvoir travailler à ce cycle-là qu'elle considérait comme un des piliers de la musique avec cette dame-là, c'était vraiment une chance et un honneur.
Parce que Albéniz parlait toujours de sa musique comme d'une petite musiquette entichée de petite saleté. Il disait à propos de cette pièce aussi, de Lavapièce, qu'elle était une merveille, qu'il considérait comme étant une œuvre d'une difficulté si extrême qu'il craignait que personne ne puisse la jouer un jour, sauf un pianiste à qui il adressait une lettre, justement, Joaquín Balatz. Mais l'idée de difficulté, ça vous excite?
C'est sûr que c'est sans aucun doute la plus complexe de toutes les pièces du cycle. Et sûrement la plus dure techniquement à réaliser. Mais très complexe avec ces harmonies justement auxquelles on rajoute toujours une note ou deux. Comme quand on rajoute un peu de poivre dans une salade. Et c'est pas forcément la difficulté qui attire quelqu'un quand il est face à une pièce. Mais c'est tout simplement cet immense pilier qu'est ce cycle justement.
magnifique Ivnat au début des années 50 dans le tout début de l'opus 11 de Beethoven. Incroyable pianiste que ce Ivnat qui à l'époque parlait du domaine de la pianistique, hein, on parlait pas du piano. Et j'aime beaucoup cette formule du domaine de la pianistique, un côté un peu grammaire mathématique pseudo-ludique. Ivnat qui a eu comme élève notamment Marie-Claire Alain, Lucette Descaves, Jean-Bernard Pommier, extraordinaire pianiste, Pierre Sancan, etc. Et que vous découvrez, vous, Lorenzo Soules, très très tôt.
Oui, quand j'ai déménagé à Saint-Malo, j'ai intégré le conservatoire de la ville. Et il se trouve que mon premier professeur m'a offert l'intégrale justement des sonates de Beethoven par Ivnat. Et ça a vraiment été le premier enregistrement avec lequel j'ai été en contact. Et d'ailleurs, j'ai toujours les CD à la maison, et on s'en lasse vraiment pas. Ça a beau être un enregistrement qui a plus de 60 ans, on ne se lasse pas d'entendre la radicalité d'Ivnat, et son naturel surtout. C'est vraiment quelqu'un qui ne fait pas de compromis, et à chaque fois qu'on l'entend, on est surpris par quelque chose.
Alors cette idée de radicalité, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que ça veut dire que c'est une étoile vers laquelle il faut aller? Si on ne l'est pas, je dirais, par nature?
C'est une radicalité qui va aussi dans le sens de la naturalité. Ça veut dire qu'il laisse vraiment parler ce qu'il ressent, sans entrave. C'est pas quelqu'un qui va chercher à faire ce qu'on attend de lui. C'est vraiment quelqu'un qui va faire passer son message personnel, sans aucun compromis.
Est-ce qu'il a l'idée de convaincre quand on joue de la musique devant des gens?
Quand on joue devant des gens, on essaie toujours de faire passer son message. Après, il y a des personnes à qui ça plaît, et il y a d'autres personnes à qui ça plaît pas. Enfin, c'est toujours comme ça dans tous les domaines. Et évidemment, plus on convainc de personnes, mieux c'est. Mais c'est pas une calamité si jamais une personne ou même un groupe de personnes n'apprécie pas notre message.
Parce que donc Ivnat avait dans ses carnets de 1983 des formules très très belles sur l'interprétation idéale qui, selon lui, présuppose un oubli total de la personne au bénéfice de l'œuvre. Bon, ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent. S'oublier entièrement afin que l'œuvre se ressouvienne qu'elle est tout de notre être sensiblement et éloquemment obéissant. Et c'est là que ça devient intéressant. Fusion émouvante de l'interprète et du créateur, exprimer toujours pour la première fois l'émotion contenue dans l'œuvre, la continuer, comprendre l'œuvre qui nous comprend. Et j'aime beaucoup cet aller-retour extrêmement sincère entre un texte musical. Bon, c'est un petit peu abstrait aussi, d'une certaine manière. Est-ce que une œuvre pour vous, c'est quelque chose qui est forcément un miroir et qui parfois vous semble être un personnage aussi?
Une œuvre, quand elle est écrite par un compositeur, pour la grande majorité du répertoire, on ne saura jamais pourquoi exactement ce que ressentait le compositeur lorsqu'il l'a écrite. On en sait toujours ce qu'il a vécu dans cette période, mais ce qui s'est réellement passé, c'est perdu à l'histoire. Alors une œuvre a une histoire, et puis chaque interprète essaye de la découvrir. Alors évidemment, chacun aura ses intuitions, chacun la sentira différemment, la verra différemment, l'analysera aussi différemment, et le but, c'est justement de faire fusionner, comme vous l'avez dit, la pièce avec soi-même, tout en respectant évidemment ce que le compositeur a voulu dire avec cette pièce, et de se l'approprier, et puis de la faire passer ensuite dans la salle.
Alors, faire passer ensuite dans la salle, il y avait quelqu'un qui était très fort pour cela, c'est un de vos dieux vivants, je crois qu'on peut le dire, c'est Émile Gilels.
Thank you.
Le très grand Emile Gilels au piano avec le Philharmonique de Berlin. Un magnifique enregistrement avec à la baguette Eugenio Rum. Et ce premier mouvement du concerto de Johannes Brahms. Donc à vous suivre, hein, Lorenzo Soules, nous sommes chez vous avec votre Dieu vivant.
Oui, ça a été pendant beaucoup d'années mon Dieu vivant. D'ailleurs, ça l'est toujours. Sauf que maintenant, j'ai élargi aussi un peu mon esprit et j'ai ajouté d'autres dieux vivants. Mais oui, il m'a beaucoup marqué pendant une très longue période.
Qu'est-ce qui vous a marqué précisément ?
Ah, il y a le son, vraiment le son en or qu'il avait, avec lesquels il ouvrait vraiment des profondeurs. J'ai malheureusement pas eu la chance de l'entendre en live, mais même dans ses enregistrements et cette largesse de son. Et puis il y a toujours aussi ce personnage qui est un peu intrigant, pas forcément facile à cerner et qui ne devait pas forcément avoir un caractère facile non plus. Et bon, j'ai toujours admiré pour ce qu'il savait faire à l'instrument.
Et puis toujours ce rapport aussi de distance avec l'orchestre, ce qui est intéressant surtout dans ce concerto-là, c'est cette espèce de jeu du chat et de la souris entre l'orchestre énorme ici, mais en tout cas en l'occurrence le Philharmonique de Berlin, mais écrit comme tel, et puis cette entrée de piano absolument magique. Alors Lorenzo Soules, pour bien vous comprendre, donc vous arrivez à Cologne à 13 ans. Mmh. Vous y êtes toujours, vous suivez les cours de Pierre-Laurent Aymard.
Oui, mais les cours de Pierre-Laurent Aymard et Tamara Stefanovic.
Et dans des classes de maître, on appelle ça comme ça, qui vous ont marqué, je crois que Léon Fleischer, dans Brahms, vous avez beaucoup marqué.
Oui, j'avais la chance de travailler une fois avec lui. On avait travaillé sur l'opus 117. Et ce qui concerne Brahms, c'est vrai qu'il était très proche de cette musique, un peu dans le style de Gilels, dans Brahms. Et il avait une vision très noble de cette musique. Et ça m'a beaucoup marqué.
Dans le parti d'en jouer de Lorenzo Sules, une pièce que vous avez jouée d'ailleurs, de Marco Stroppa, avec Traiettoria Deviata, qui veut dire trajectoire déviée, que vous avez eu l'occasion de jouer dans un projet avec votre professeur, Pierre-Laurent Aymar, Lorenzo.
Oui, c'est un projet qu'il avait organisé avec sa classe de piano, l'IRCAM. Comme la pièce est très longue, environ 45 minutes, on l'avait divisé en 4. Et j'avais joué donc cette dernière partie avec, où il y a le piano avec ce dialogue, avec l'électronique.
Avec les sons synthétiques générés par l'ordinateur.
Mmh. Et c'était vraiment une expérience très particulière, déjà parce que le compositeur était là, et qu'on n'a pas toujours la chance de travailler des pièces avec celui qui l'a créé. Et je me souviens, on avait passé des heures dans les sous-sols de l'IRCAM à travailler sur cette pièce fantastique. Et être entouré de tous ces sons, c'est vraiment... Déjà quelque chose qu'on n'a pas tous les jours, qu'on ne vit pas tous les jours sur scène. Et ces sons qui nous enveloppent, c'est vraiment un côté magique, presque cosmique un petit peu.
Alors justement, ces sons qui vous enveloppent, pour rebondir un petit peu et filer la métaphore avec l'idée de trajectoire, qui est une question qui, en tout cas, se pose, j'imagine, à votre âge. Pianiste dit jeune, vous avez 22 ans. Et ces voix qui vous enveloppent, ce seraient justement celles des gens qui vous accompagnent, que ce soit la famille ou que ce soit les agents. Ces voix, est-ce qu'elles vous aident à avancer? Et surtout, quel genre de questions vous vous posez en termes de trajectoire? Parce que ces voix, elles doivent vous parler de carrière, elles doivent vous parler de projets, elles doivent peut-être vous parler de choses que vous n'avez pas forcément imaginées. Comment vous vivez avec ces voix qui vous accompagnent?
C'est vrai qu'on est beaucoup influencé par tout notre entourage, que ce soit l'entourage professionnel, l'entourage familial, etc. Alors après, on se laisse influencer, et puis après, au final, c'est quand même nous qui prenons les décisions. Enfin, c'est la personne qui choisit par là où elle veut aller, selon ses convictions. Alors évidemment, il y en a qui essaient de nous influencer un peu plus que d'autres. Alors après, il faut savoir leur faire confiance, dans certains cas, ou des fois, il vaut mieux rester à ce qu'on pense être la meilleure solution.
J'ai l'impression que vous êtes un doux rêveur, Lorenzo Sules.
Dans quel sens?
Que vous aimez bien être déconnecté.
J'aime beaucoup avoir mon temps pour moi, d'avoir du temps pour réfléchir à certaines choses. Alors évidemment, c'est pas tout le temps le cas, parce que j'aime bien être entouré aussi, j'aime bien passer du temps avec des amis, ou à la maison aussi, en famille, pendant les vacances. Mais c'est vrai que j'avais toujours aimé être plus seul, d'avoir mon petit jardin secret autour de moi.
Il s'agissait en somme d'improvisation et j'improvise très mal. Et je ne me familiarise pas avec ce truc-là, ce campanule, cette poire, ce concombre, enfin ce machin qui déjà nous tendait, comme il le tend en ce moment-ci, qui nous tendait une main insidieuse. J'ai fréquenté trop tardivement le micro. Ces agrès qui escaladent les fenêtres, qui traversent la cuisine, qui étranglent un guéridon au passage, et qui se lovent en serpent d'être près de mon corps alité. Oh, tandis que toi, Jean, n'est-ce pas, toi, tu as l'habitude? Moi? J'ai une sainte force de ce truc-là. Et puis je dors debout, j'ai travaillé depuis hier midi jusqu'à aujourd'hui 1 heure. Et puis je viens de déjeuner, alors j'aime mieux parler pour 1000 visages et 1000 paires d'oreilles que dans ce machin, enfin cette courge.
Thank you. Michel Petrucciani, dans votre partie d'enjouer, Lorenzo Soules, dans le thème de Caravane, Duke Ellington. Alors c'est vrai que ça pour vous, c'est une fenêtre vers l'imaginaire. Est-ce que parfois vous avez l'impression que, à force de travailler sur des textes, des partitions, ça mûre un petit peu et ça limite la perspective de cet imaginaire dont vous parlez?
Ben disons qu'on a toujours l'habitude d'en rester au texte, d'être vraiment attaché à une partition écrite. Et alors que là, bon, y a un thème, mais tout le reste, c'est quasiment de l'improvisation. Et dans ce cas, il faut vraiment faire preuve d'une très très grande force d'imagination. Et moi, j'ai jamais compris comment on pouvait aller jusqu'à ce point vraiment dans l'imaginatif. Et d'ailleurs, voilà, je ne pourrais jamais faire ça. Et c'est vrai que ça change un peu de ce carcan classique, si on peut mettre ça entre guillemets. Et c'est vrai que ça permet de s'échapper un peu de ces murs que sont une partition.
Et puis toutes les partitions qui sont sur le piano. Alors pour refermer votre partie d'enjouer, Lorenzo Soules, on va le refermer avec quelque chose qui est un petit peu proche quand même de cette idée d'imagination et de cette alternative, j'imagine, que quel compositeur des années 50, dont Stockhausen et Boulez, ont imaginé aussi pour donner l'impression, polémique ou pas, que l'interprète était libre de faire ce qu'il voulait dans une œuvre dite ouverte, c'est-à-dire modulaire, fragmentaire, avec des petits modules que vous pouvez assembler comme vous voulez. Alors, au-delà de la dimension ludique, est-ce qu'il y a vraiment la liberté pour vous dans ces œuvres-là ?
Si on prend le 11e clavierstück de Stockhausen, donc c'est vraiment une énorme feuille de papier avec plusieurs cellules un peu éparpillées, quelques-unes très simples, d'autres très complexes. Alors le but, c'est de les jouer dans l'ordre que l'on veut, enfin, selon là où les yeux se posent après avoir terminé une cellule. Alors évidemment, c'est pas totalement libre, parce qu'à la fin de chaque cellule, il y a une indication de tempo, une indication de nuance et une indication d'articulation pour la cellule qui va suivre. Mais après, évidemment, il y a un nombre énorme de possibilités. Puis après, si on regarde encore plus en profondeur, on pourra remarquer que certaines articulations sont peut-être plus adaptées à certaines cellules, ou qu'il faudra faire des compromis, peut-être. Et donc, en fait, chacun fait son puzzle un petit peu. Et donc, c'est vraiment autre chose que d'avoir une partition classique, avec vraiment un texte qu'on ne peut pas vraiment changer.
Et alors, dans ce puzzle qu'est votre vie aujourd'hui à 22 ans, est-ce que vous avez l'impression d'y voir clair sur ce que vous serez dans 20 ans ?
Ouf. Bah ça, le temps le dira par lui-même. Je veux dire, on peut évidemment avoir des plans pour le futur, mais on ne peut pas toujours tout anticiper. D'ailleurs, si on savait tout à l'avance aussi, la vie serait beaucoup moins intéressante.
Bah, très grand merci à vous.
Merci à vous.
Un extrait du Klavierstück numéro 11 de Stockhausen par les frères Kontarski, assidus à cette fameuse académie de Darmstadt, et créateur notamment du concerto pour deux pianos solos de Stravinsky. Pour refermer ce Parti d'en jouer avec vous, Lorenzo Soules, un grand merci. On peut vous retrouver en concert le 29 juin à Lyon avec le Quatuor Hermès, et puis un petit peu plus tard, le 24 juillet, à l'Hôtel de Soubise à Paris. Mais on vous met tout ça, bien sûr, sur le site du Parti d'en jouer sur francemusique.fr. Éric Lancien a réalisé cette émission, Jean-René Bonissant m'a aidé à la préparer avec aujourd'hui la prise de son et au mixage, Valérie Lavalard. Passez un très bon dimanche soir à l'écoute de France Musique, on se retrouve la semaine prochaine. Mais pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Jérémy Rousseau comme si vous y étiez. Bonsoir Jérémy.